Radio Kapi. Le journal Babel Pongo Masnango.
Bonjour. Les préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs vont bon train. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est arrivé pour cela à Bantoutouville depuis hier. John Banza est accompagné des directeurs généraux de l'Office des routes et de l'Office de voirie et drainage. Dans ce journal aussi, le mémorandum d'entente sur la santé signé jeudi entre la RDC et les États-Unis, c'est pour renforcer la lutte contre plusieurs maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et la poliomyélite. Notre invité est Hervé Conan, directeur général de l'Agence française de développement. Il nous parle de la 6e réunion du comité de pilotage tenue mercredi à Kinshasa. Mais avant de développer ces titres, sachez d'abord que l'aéroport international de Bamboka à Kisangani a été attaqué hier dimanche 1er mars par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tchopo attribue ces attaques à l'armée rwandaise RDF et aux rebelles de l'AFC M23. Ces attaques se sont intensifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires, précise le communiqué. Le document indique que 4 drones ont été interceptés et abattus dans le dernier aux environs de 19h30 heure locale, alors qu'un avion de la compagnie africaine d'aviation CAA a amorcé déjà son atterrissage. Le gouverneur de la Tchopo appelle la population de Kisangani au calme. C'est aussi hier dimanche que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, est arrivé à Bandundu pour les préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs. Il est accompagné des directeurs généraux de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage. Il a inspecté plusieurs sites stratégiques, notamment la salle du gouvernement et l'aéroport national de Bandunduville. On écoute le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, dans ses propos recueillis par Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, partenaire de Radio Kapi.
Bien, nous sommes en pleine croisade de construction des infrastructures. Il est dans un schéma où les infrastructures doivent être modernisées pour celles qui existent. Et là où les infrastructures n'existent pas, il doit les construire. La province du Kwilu est une province extrêmement importante, comme toutes les 26 provinces. Et donc, il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés ici. Donc, je suis venu voir l'évolution des travaux. À l'aube de l'organisation de la 13e conférence des gouverneurs, nous devons nous assurer que les infrastructures sont prêtes pour accueillir ces grands événements qui va réunir l'ensemble de la population congolaise. Et donc, c'est une visite d'inspection. Après, on verra comment on peut projeter d'autres projets dans l'avenir.
La conférence est donc prévue à la fin de ce mois. Toujours en ce qui concerne les infrastructures, il y a eu lancement samedi à Boga, localité située à environ 120 km de Bounia, territoire d'Irumu. Des travaux d'entretien de routes des dessertes agricoles dans cette région, exécutés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans le cadre du programme RESET. Ce projet vise à réduire la violence et à stabiliser les communautés dans les zones touchées par les conflits. Les autorités espèrent ainsi diminuer la vulnérabilité de la jeunesse et contribuer à terme au retour progressif de la paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Le représentant de l'OIM à cette cérémonie précise que ce programme prévoit également d'autres activités en faveur de la stabilité et de la cohésion sociale dans la région. Guy Boulibouno, assistant au projet RESET de l'OIM en Ituri.
Non seulement vous allez contribuer à la réhabilitation des routes, mais vous apprendrez comment combattre les tensions entre les communautés. Vous êtes donc à la fois acteur de sécurité et agent de développement.
Non seulement sécurité, mais beaucoup agent de développement.
Pour sa part, le chef du bureau de l'Office de dessertes agricoles en territoire d'Irumu a appelé la population à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet afin de garantir à la communauté des routes praticables. Mathieu Mumberi.
Le développement commence par les routes, car sans route, il n'y a pas de développement. Ne regardez pas seulement l'argent que vous allez gagner, mais ayez d'abord à cœur le développement de votre entité.
Dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans plusieurs zones de la province de l'Ituri, cette initiative apparaît comme une réponse préventive à l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés en leur offrant une alternative économique et sociale. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Et au Kasaï oriental, l'entreprise Safrimex, chargée de réhabiliter et moderniser les routes au Kasaï oriental, a livré officiellement jeudi à l'Office du Voirie et Drainage OVD 35 km de la voirie urbaine de Mbujimayi, réhabilitée, asphaltée avec marquage au sol et éclairée. C'est après 36 mois d'exécution des travaux. Un procès verbal de réception a été signé entre l'entreprise Safrimex SARL et 5 commissions de contrôle, le chef de division des travaux publics et infrastructures, ainsi que le représentant du gouvernement provincial. L'ingénieur Freddy Mboma, directeur du département technique à l'Office de voirie et drainage OVD, le maître d'ouvrage, se dit satisfait car les travaux ont été exécutés conformément aux exigences du contrat en quantité et en qualité. Ingénieur Freddy Mboma, au micro d'Esther Dalafina.
Les premières impressions que nous avons, c'est vraiment insatisfaisant parce que les ouvrages que nous livre aujourd'hui l'entreprise Safrimex, sous l'accompagnement de toutes les missions de contrôle ainsi que de notre direction provinciale, ont répondu à toutes les sollicitations et nous disons merci pour ces ouvrages de qualité. C'est une œuvre humaine, il n'y a pas de perfection. On a vu avec l'inspection visuelle qu'il y a quelques points qui nécessitent qu'une attention soit soutenue de manière à ce qu'on améliore pour donner encore un bon résultat. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des formalités administratives. Dès que le prononcé est fait, ça veut dire que l'entreprise se décharge de la responsabilité momentanée de ses ouvrages. Il va falloir que l'OVD puisse prendre le relais pour pouvoir inscrire ce projet dans les travaux avec le programme du Fonds national d'entretien routier.
La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé jeudi à la primature la cérémonie de signature du mémorandum d'entente relatif au cadre bilatéral de coopération sanitaire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des États-Unis d'Amérique. Doté d'un financement global de 1,2 milliard de dollars américains, dont 900 millions apportés par le gouvernement américain et 300 millions mobilisés par le gouvernement congolais, cet accord traduit la volonté affirmée des deux pays de renforcer durablement le système de santé congolais. Jude Mista Bilanda pour les détails.
Cet accord représente bien plus qu'un engagement administratif. Il exprime notre responsabilité envers nos concitoyens. Il renforce notre capacité à assurer la protection sanitaire de notre pays, a déclaré Judith Suminwa, chef du gouvernement de la RDC. Ce mémorandum permettra de renforcer la lutte contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes, d'améliorer la santé maternelle et infantile, de poursuivre l'éradication de la poliomyélite, d'intensifier la surveillance épidémique, de consolider les capacités du personnel de santé et de renforcer la préparation face aux urgences sanitaires. Pour Yann McCurry, représentant de l'ambassade des États-Unis, cet accord à la fois pragmatique et ambitieux marque le passage d'une assistance traditionnelle à une collaboration fondée sur la responsabilité partagée. Ensemble, nous visons à sauver des vies, à renforcer la sécurité sanitaire de nos deux nations et à bâtir un système de santé résilient et autosuffisant en RDC, a-t-il souligné. À travers cet accord, la RDC traduit la volonté de prendre pleinement en charge ses priorités sanitaires et de progresser vers la couverture santé universelle.
32 professionnels de santé opérant dans la zone de santé de Kindu viennent d'être formés sur la gestion des urgences médicales en milieu hospitalier. C'est grâce à une formation organisée par le Centre Hippocrate en collaboration avec la zone de santé de Kindu. Ces assises de 3 jours avaient pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de ces prestataires de soins de Kindu pour une prise en charge rapide, efficace et coordonnée des urgences médicales et chirurgicales en milieu hospitalier. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Cette formation au bénéfice de médecins, infirmiers et sages-femmes a été organisée afin de doter ces professionnels de santé des outils pouvant leur permettre de bien travailler selon l'organisateur Dr. Amsini Safari Ernest.
Il existe de morts évitables. Et lorsque on voit ces morts évitables à répétition dans différentes structures, il a fallu qu'on puisse réfléchir pourquoi les gens peuvent mourir si vite alors qu'il y avait moyen de les récupérer.
De quoi était-il question durant ces 3 jours de formation? Dr. Titi Aluma Mosso est l'un des formateurs.
Nous avons appris à ces participants comment gérer les urgences, entre autres comment prendre les arrêts cardiaques, donner de l'oxygène aux malades, comment gérer certains troubles ioniques.
Très reconnaissants, les participants promettent d'améliorer leur façon de travailler.
Nous allons mettre en application les matières apprises pour le bien-être de la communauté.
Le représentant du médecin chef des zones de santé de Kindu, de son côté, espère déjà un changement dans la prise en charge des cas. Adrien Kakese.
Si on ne sait pas prendre les patients en urgence, une minute suffit pour que ce malade puisse mourir.
Signalons que cette formation est une première dans la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La situation sanitaire dans la zone de santé d'Isangi dans la Tchopo est devenue critique. Cette entité fait face à une double épidémie meurtrière, la rougeole et le mpox. Ces deux pathologies qui se propagent simultanément ont déjà causé quelques décès au sein de la population locale. Faute de moyens logistiques et thérapeutiques, les autorités sanitaires se tournent vers le gouvernement central et vers les partenaires. Nous faisons le point avec Jacques Moukonkole.
Sur les 25 aires de santé que compte la zone, 4 sont actuellement frappées de plein fouet par la rougeole. Le bilan depuis la première semaine épidémiologique fait état de 80 cas enregistrés, dont un décès. Selon le docteur Charles Koyumoke, médecin chef des zones, la cible principale du virus reste la plus petite enfance.
La femme n'a pas été protégée à partir des 9 mois par rapport à notre calendrier vaccinal. Il peut contracter facilement la rougeole et développer de formes graves qui peut l'amener même jusqu'à la mort.
En parallèle, le mpox inquiète également les autorités. À ce jour, 23 cas ont été notifiés, dont un décès. Pour l'heure, l'épidémie semble localisée. Elle ne sévit que dans l'aire de santé de Weko, plus précisément au village Nganzi. Face à cette double menace, le MCZ demande une intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires pour l'envoi de moyens logistiques et thérapeutiques. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Notez qu'une lueur d'espoir pointe toutefois à l'horizon avec une première réaction humanitaire sur le terrain. MSF Suisse a procédé à la prospection et à la confirmation des cas préalable à une éventuelle intervention. Surpopulation, détenus malnutris, subventions étatiques non versées et lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. La situation est préoccupante dans les prisons centrales de Butembo et de Lubero au Nord Kivu. L'alerte est du réseau pour le droit de l'homme, REDO, une organisation basée dans la région. Dans son rapport de monitoring publié le 27 février 2026, l'organisation précise qu'à Butembo, 1343 détenus vivent dans une maison carcérale confrontée à une pénurie de médicaments et à de retards de prise en charge médicale, tandis qu'à Lubero, l'insuffisance de la ration alimentaire demeure une préoccupation majeure. Le coordonnateur du Rideau, Muindo Wasivi Iniwa, appelle l'État congolais à débloquer d'urgence les subventions et à accélérer le traitement des dossiers judiciaires afin de désengorger ces établissements pénitentiaires. On écoute.
Depuis le 1er janvier 2025 au 25 février 2026, un seul trimestre a déjà été honoré, alors que l'État devrait payer chaque trimestre une subvention pour la ration et les soins médicaux des détenus. L'absence de cette subvention est à la base de plusieurs problèmes au sein de ces établissements pénitentiaires. Il y a un nombre très élevé de malades et d'autres souffrant de la malnutrition. Et si nous appelons l'État congolais à prendre ses responsabilités par rapport à cette question des détenus. À titre de recommandation, le Redo appelle le ministre national de la Justice de s'impliquer dans la question des paiements des subventions des établissements pénitentiaires aux juridictions et instances judiciaires d'accélérer l'instruction des dossiers avec prévenu pour qu'ils soient fixés à temps de leur sort. Aux bienfaiteurs de venir au secours des détenus, au gouvernement de construire une prison moderne répondant aux normes.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des responsables judiciaires et pénitentiaires de Butembo et de Lubero. Le président du parti Alliance des démocrates humanistes, ADH, et rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Baende, salue la démarche visant la mise en œuvre de la commission Vérité et Réconciliation, CVR, avant tout dialogue politique. Il a livré son point de vue samedi à Kinshasa lors d'un entretien avec une délégation du Conseil interreligieux congolais, CIC. Cet acteur politique a exprimé le vœu de voir les Congolais se réconcilier afin de baliser la voie vers une paix durable, condition essentielle au développement du pays. Les propos de Jean-Claude Baende recueillis par Blaise Ndongala.
Il faut que le pays soit réconcilié, que les Congolais puissent se mettre d'accord autour d'un projet, le projet que nous estimons qui ne serait que le développement de notre pays, le bien-être de la population congolaise. Je suis déterminé à accompagner cette démarche jusqu'à son aboutissement. Nous avons prévu en tant que parti politique de l'opposition une feuille de route que nous avons remise à l'autorité ecclésiastique pour permettre à ce que dans la recherche des solutions des problèmes qui se posent aujourd'hui au Congo, qu'ils puissent aussi jeter un coup d'œil dans notre réflexion et retenir ce qui est de positif dans ce que nous avons fait pour enrichir le travail qu'il est en train de faire. Pensons en toute sincérité que ce travail pourra aboutir parce que les Congolais aujourd'hui sont fatigués de vivre de guerres, de rébellions à répétition. Il faudrait qu'un jour que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut qu'il y ait une vraie réconciliation, des mécanismes où les gens doivent reconnaître le mal qu'ils ont fait pour le pays, de façon à ce que demain nous puissions bâtir le fondement d'une paix véritable.
Pour rappel, l'archevêque Dodo Kamba, initiateur de ce projet, estime que la mise en place préalable de la commission Vérité et Réconciliation vise à décrisper le climat politique en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Plusieurs coups de feu ont été entendus aux alentours de la présidence du Burkina Faso la nuit de samedi au dimanche 1er mars. L'hypothèse d'une tentative de coup d'État a été rapidement écartée. L'incident pourrait être lié à des tensions entre des militaires sur la gestion de la situation sécuritaire dans le pays où plusieurs positions de l'armée ont été attaquées par des groupes djihadistes ces dernières semaines.
L'invité.
Le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane et de forêt dégradées, PSFD, a tenu la 6e réunion de son comité de pilotage mercredi 25 février à Kinshasa. Ce programme appuie le ministère de l'Agriculture dans son rôle dans la mise en valeur des terres dégradées des zones de savane et forêt, en renforçant les filières agricoles locales et en établissant des alliances productives grâce à l'octroi des subventions. Le PSFD travaille en synergie avec plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement AFD. Pour en parler, Radio Capi reçoit dans ce journal le directeur général de l'AFD, Hervé Konan, s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Hervé Konan, bonjour.
Bonjour.
Quelle analyse faites-vous sur la mise en œuvre de la feuille de route du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savanes et de forêts dégradées? Là, nous parlons du COPIL 5.
Alors, le COPIL qui s'est réuni aujourd'hui sur le PSFD, je pense à consacrer les efforts qui ont été faits ces dernières années pour faire du PSFD une référence sur l'approche développée permettant de mobiliser des petits agriculteurs sur des plantations pérennes, qu'elles soient cacao, café ou palmier à huile, en lien avec des transformateurs de proximité pour rassurer sur l'écoulement de leurs produits, sur le gain financier qu'ils pourront en avoir. Tout cela avec la vocation de reforester ou de replanter sur des zones dégradées, qu'il faut bien sûr nourrir, et de manière à pouvoir détourner, si je puis dire, ces populations de la déforestation. Donc l'enjeu objectif, c'est la lutte contre la déforestation via la mobilisation des agriculteurs sur des activités productrices, génératrices de revenus, en lien avec des transformateurs qui leur permettent d'avoir des ressources de proximité, d'avoir l'assurance que les produits qu'ils cultiveront sont écoulés. Donc on a, je pense, un beau modèle qui fait ses preuves, qui a d'ailleurs été couronné de succès puisque le CAFI Fonared a accepté de mettre un supplément de financement de 8 millions, un top-up de 8 millions, qui va permettre d'atteindre l'objectif que l'on avait sur ce projet, qui est de planter 12 000 hectares dans deux provinces, la province du Kwilu et du Tchopo.
Quelle était la part de votre institution au cours de cette période?
Alors l'AFD n'a pas apporté de financement sur ce projet PSFD. Par contre, l'AFD s'est mobilisée pour obtenir les financements du CAFI Fonared, donc 15 millions initialement, plus 8 millions qui ont été octroyés en fin d'année. Donc l'AFD accompagne l'ensemble de ce projet en mettant à disposition ses expertises pour orienter le projet vers les succès qu'il a aujourd'hui. Et nous sommes fiers avec l'ensemble des acteurs, le ministère qui est convaincu de l'approche et qui souhaite vraiment le développer de manière importante, l'ensemble de l'équipe projet et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le FRMI, et bien sûr l'ensemble des équipes qui sont sur le terrain pour accompagner ces transformations agricoles et accompagner ces petits producteurs pour les vers une agriculture plus moderne et plus productive.
Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que quelque chose n'a pas marché. Il y a par contre des points d'amélioration et qui avaient été relevés dans le cadre de l'évaluation qui avait été faite l'année dernière. Et il y a des points d'amélioration sur le sujet des intrants. Il faut qu'on arrive à avoir une qualité d'intrants qui soit la meilleure possible pour que les productions soient les meilleures possibles. Il y a le sujet de la sécurité foncière, faire en sorte que nous puissions obtenir pour ces agriculteurs qui plantent, qui ont des plantations sur leur terrain, qu'ils aient une sécurisation foncière de ces terrains. Et cette sécurisation foncière, elle est importante pour eux, bien sûr, mais elle est aussi importante pour que nous puissions développer des mécanismes bancaires qui puissent avoir des prêts, mais aussi pour le paiement mobile qui demande d'avoir souvent des garanties au niveau des banques. Et donc, c'est ce que nous allons travailler dans le cadre du top-up, avec en plus le sujet environnemental et social. Je dirais que tout n'est pas parfait. Ces alliances productives ont parfois des pratiques qui ne sont pas exactement ce que l'on souhaiterait, qui sont un petit peu divergentes par rapport aux règles environnementales et sociales que le pays s'est donné. Donc on va travailler sur ces sujets progressivement pour tendre vers des alliances productives modèles et qu'il faudra dupliquer. C'est ce que nous allons essayer de faire avec le ministère en allant mobiliser des fonds supplémentaires du CAFI Fonaret. C'est tout l'espoir que l'on a et je pense que le COPI l'a démontré, la qualité des résultats obtenus.
Alors, pour terminer, M. Conan, dites-nous quelles sont vos priorités pour ces COPI 6.
Je crois que la priorité, c'est d'abord de se dire merci. Parce que on avait bien travaillé l'année dernière et que ça permettait aujourd'hui de consacrer tous les efforts qui avaient été faits. Sur la feuille de route à venir en lien avec ce COPIL, c'est maintenant de tout mettre en œuvre pour atteindre ces 12 000 hectares qu'on s'est fixés et d'améliorer, je dirais, les points d'attention que je citais précédemment. Donc le COPIL a donné une feuille de route claire, un cadre budgétaire clair au projet, ce qui permettra au projet maintenant de travailler avec sérénité.
Monsieur Hervé Conan, directeur général de l'Agence française de développement, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous souhaitons une très bonne semaine.